pas de micro. Bah,
allez-y.
Ouais, ça fait rien, on peut. Si vous avez la voix qui porte. Allez-y, va. On vous entend.
Oui, deux questions. Je crois qu'on a une petite protection en France avec la loi informatique et liberté qui semble s'être réveillée dans les médias aujourd'hui.
Oui.
Et qui fait que on ne peut nous installer ces objets connectés que à condition qu'on donne notre autorisation. Donc là, ça semble être un frein. Je dis ça semble parce que une loi comme la loi de 78, informatique et liberté, peut se casser, se modifier, etc., par des votes d'ordonnance ou d'assemblée nationale qui votent parce qu'ils sont fatigués à 3 heures du matin. Donc il y a encore cette chose-là. Et autre chose aussi, j'aimerais savoir, pour avoir cherché et pas trouvé. J'aimerais savoir, j'ai bien trouvé la loi qui est obligée d'être promulguée après une directive européenne. Bien, sauf que cette loi, si on s'en souvient, c'est une ordonnance, c'est-à-dire c'est pas passé par le Parlement. La loi de transition énergétique, c'est une ordonnance.
Ah ouais.
Elle s'appelle loi, mais elle a été promulguée par le président de la République.
Ah oui, non,
c'est
ça,
une ordonnance. Ceci étant,
2015.
Une loi, pour qu'elle soit appliquée, il faut des décrets d'application. Mmh. Je ne les ai pas trouvés.
Ah oui.
Alors,
c'est une colle, ça.
J'ai cherché et j'ai posé des questions. Il y a même un parlementaire qui a posé la question et qui n'a pas obtenu de réponse. Or, une loi qui n'a pas de décret d'application...
Ça ne s'applique pas.
C'est difficile à appliquer.
Ouais.
Sauf donc, est-ce que vous avez trouvé... Ouais. La chaîne de juridique qui fait que Enedis affirme haut et fort que c'est légal et que c'est obligé et que on n'aura pas le choix. Voilà, mes deux questions.
Ça, c'est une très bonne question. J'ai jamais regardé si les décrets avaient été pris et passés, donc on va regarder parce que effectivement c'est intéressant. C'est vrai que souvent c'est long hein, pour que les décrets soient pris derrière le vote d'une loi. J'ai du mal à imaginer quand même qu'ils aient démarré sans qu'il n'y ait pas eu de décret. Enfin, on va vérifier, mais ça paraîtrait bizarre. Les préfets ont attaqué au tribunal administratif un certain nombre de délibérations de communes et ont obtenu qu'elles soient cassées au nom de cette loi-là. Donc j'imagine que normalement c'est verrouillé. Le Conseil d'État aurait hurlé sinon. Enfin, a priori, là-dessus, il ne devrait pas y avoir d'embrouille, mais on va quand même vérifier si on trouve ces décrets-là. Deuxièmement, sur la CNIL, effectivement, il y a eu une information aujourd'hui qui est intéressante. En fait, alors, la CNIL, nous, on est très réservés sur la CNIL parce que depuis 1978, elle n'a pas arrêté grand-chose. Elle n'a pas arrêté la biométrie dans les écoles, elle n'a pas arrêté les caméras de vidéosurveillance, elle n'a pas arrêté le puçage généralisé. Et puis la CNIL, elle donne un avis et après, le gouvernement, il en fait bien ce qu'il veut. Ceci dit, elle a ce matin fait une mise en demeure intéressante auprès de la société Direct Énergie, donc qui est un des fournisseurs d'électricité concurrent d'EDF, parce qu'il collectait les données par le biais de Linky. Donc ça, elle parle de plusieurs centaines de milliers de clients équipés de Linky. Et par une espèce d'embrouille dans la signature du contrat, comme c'est toujours le cas, Direct Énergie collectait les données horaires de la consommation d'électricité de ses clients. Horaires, toutes les heures. Voilà. Et nous dit la CNIL, ces données peuvent révéler de nombreuses informations relatives à la vie privée, sans blague. Heure de lever et de coucher, période d'absence, nombre d'occupants du logement. Et donc, elle a fait une mise en demeure à Direct Énergie, non pas sur le fait de collecter ses données, hein, il a le droit, mais c'est parce qu'il n'a pas bien demandé le consentement des gens. Or, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on signe des trucs, on ne fait pas gaffe, et donc, de fait, on donne son consentement, premièrement. Donc, cette histoire de consentement... Elle vaut pour... vous connaissez tous la petite case qu'on a oublié de cocher. Et puis deuxièmement, très vite, vous allez avoir des offres avec des malus bonus qui feront que vous donnerez votre consentement parce que... Enfin, peut-être pas vous, mais plein de gens donneront leur consentement parce que ça sera moins cher. Voilà, donc on en est là, quoi.
J'ai peut-être une réponse, après tu me diras ce que tu en penses, concernant ton questionnement sur le déroulement juridique. Est-ce qu'un code de l'énergie a force de loi ?
Oui, le code de l'UE.
Code, c'est un ensemble.
Oui.
C'est un ensemble de lois.
Oui.
Et c'est un ensemble de décrets. C'est aussi, parfois, la suite. Aussi. Dans le code, il y a la loi, plusieurs
oui.
décrets, des arrêtés. Oui. C'est-à-dire voilà. la partie législative
et réglementaire.
Les décrets réglementaires
oui.
et voire les arrêtés administratifs. Oui. Et pour répondre à votre question, si des maires se sont fait avoir sur leurs arrêtés, c'est pas pour la hiérarchie des lois, c'est parce que le préfet a vu soit des vices de forme au tribunal administratif, soit a fait appel à d'autres procédures, mais pas
d'accord.
à la hiérarchie
des
qui
d'accord.
devrait exister ouais. entre la loi de transition énergétique et les décrets absents, voire même les arrêtés. À la limite, ça serait intéressant que, comme un seul homme, ce soit tous les Français écrivent à Enedis, gentiment, poliment à leur demandant, s'il vous plaît, j'ai entendu parler du Linky, est-ce que vous pouvez me dire, vous qui savez tout, quels sont les textes légaux, réglementaires, administratifs qui vous autorisent à nous l'imposer ? Rien que cette question.
Alors, justement, sur ce sujet, j'avais une précision à apporter. Donc, on a sur le Code de l'énergie, dans son article 341.1, des articles 4 à 8, donc l'intégration de divers éléments légaux, dont la loi d'orientation de la politique d'énergie de 2005, celle de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement de 2009, celle sur la transition énergétique de 2015. Et donc, ce code de l'énergie dans ces articles-là reprend tous ces éléments. Voilà.
Alors, il faut savoir que la directive européenne est de 2009. Donc, tous les textes antérieurs à 2009 ne peuvent pas.
Non, non, ils ne parlaient pas de Linky.
Ne peuvent pas être l'application de cette directive.
Non, mais c'est autre chose.
C'est autre chose.
Ça, c'est sur le CPL. Ça, c'est exclusivement sur le CPL.
Le monsieur là-bas.
Oui, bonsoir. Moi, je ne voudrais pas intervenir trop sur l'aspect juridique, encore que c'est très intéressant de savoir des procédures et de savoir comment on peut s'opposer au Linky, puisqu'on est en réflexion, dans l'immeuble où j'habite, de le faire collectivement et individuellement hein, auprès de Enedis, parce qu'effectivement, ça nous apparaît être très dangereux sur la captation d'informations qu'on ne souhaite pas divulguer, bien entendu. C'est une attaque manifeste à la vie privée des individus. Et justement, à ce titre-là, moi, en tant que citoyen, je refuse complètement qu'on vienne, qui que ce soit, savoir comment je pratique, quel est mon rythme de vie et à quel titre, puisqu'eux, ils ne se sont pas permis de venir me consulter. Et je pense que, alors je ne sais pas la délibération qu'a pu prendre le conseil municipal à Arles, mais avant de le faire, il aurait été bien avisé de consulter les citoyens. Parce qu'ils ont à un moment donné, à l'informer, impactés par ça. Donc je pense que nous, collectivement, on va mener notre action jusqu'au bout, c'est-à-dire envoyer à Enedis une motion et un courrier refusant le Linky. Après, s'ils veulent nous l'imposer de force encore, que j'ai lu que M. Monloubou avait réaffirmé qu'il n'y avait rien d'obligatoire en la matière. Mais les faits démontrent quand même le contraire, puisque chez des individus, il y en a qui en sont venus aux mains pour effectivement refuser ça. Donc je pense que c'est surtout en tant que citoyen, on doit se poser la question de comment on réagit. Et moi, je pense que c'est très clair dans mon esprit, j'en veux pas.
Excusez-moi, parce que j'ai un peu envie de revenir sur le problème juridique. Je croyais avoir compris que Enedis n'était pas fondé à nous imposer ses compteurs, et je crois comprendre aujourd'hui qu'il y a un certain doute. Est-ce que je me trompe dans mon doute ?
Alors, il faut être plus clair.
Autrement dit, est-ce que vraiment on a le droit de s'opposer à la pose d'un compteur Linky chez soi ou non ? Est-ce que légalement on peut s'y opposer ?
Voilà. C'est très simple. Il y a deux cas de figure. Soit le compteur est chez vous, derrière votre porte, à l'intérieur de votre maison. Et ils ne peuvent pas rentrer chez vous. Point. Ils n'ont pas le droit. Et donc là, vous faites partie de la moitié. Il y a 50% des compteurs qui sont à l'intérieur. Ça, il y a 50% de la population qui, si elle le veut, est tranquille. Bon. pas entièrement tranquille, parce que éventuellement vous allez recevoir des dizaines de coups de téléphone du sous-traitant d'Enedis qui va vous mettre la pression en disant mais vous n'avez pas le droit de refuser, mais ça va vous coûter plus cher, mais il faut qu'on vienne, mais bon, au troisième coup de téléphone, il faut lui dire, écoute mon gars, si tu continues, je porte plainte au procureur pour harcèlement téléphonique. Et puis il faut l'enregistrer. Bon, c'est fini. Et ils n'ont pas le droit de forcer votre porte. Ça, c'est... Et tout le monde l'a reconnu et il n'en est pas question. Soit votre compteur, malheureusement, est accessible. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas présent, ou si vous n'avez pas barricadé votre compteur, nous, on a plein de gens qui l'ont barricadé de diverses façons, il va être changé. Ils ne vont pas vous demander votre avis. Ils vont le changer sans votre avis. Eux, ils ont le droit de le poser. Vous avez le droit de le refuser. S'il est chez vous, tout va bien. S'il est dehors, il faut que vous montiez la garde à côté, ou bien il faut que vous mettiez des barres devant.
Une petite précision sur ce sujet. Lors de la dernière conférence avec l'avocat, avec Maître Durand, il nous a bien précisé que seul Enedis avait une obligation, mais pas les citoyens. C'est-à-dire que la loi...
Il y a un trou.
Il y a une faille.
C'est-à-dire que seul Enedis est obligé par la loi de poser des compteurs. Pas du Linky d'ailleurs. Hein. La loi ne va pas jusqu'à dire du Linky avec la technologie CPL. Hein. Pas du tout. Hein. Elle dit il faut de l'interconnecté, de l'interopérabilité, c'est le terme retenu par la loi. Donc seul Enedis... À cette obligation. Nous, en tant que citoyens, nous n'avons aucune obligation. Aucune.
Pour le moment.
Mais
bon. Une question, c'est qu'on en est sur Arles par rapport justement à la suite des événements au niveau du temps.
On fera le point là sur l'entrevue qu'on a eue avec le directeur de cabinet à la fin de la. Hein, là, profitons de l'expertise de PMO.
Lors de cette réunion avec David, il a parlé de la loi de clôture. Est-ce que vous avez entendu parler de ça pour les compteurs qui sont à l'extérieur? Je suis pas allée voir sur Internet encore, mais puisque je suis là, est-ce que vous en avez entendu parler?
C'est-à-dire l'idée de la
clôture pour protéger les compteurs extérieurs.
Loi de clôture.
La loi de clôture, oui.
Je ne sais pas ce qu'il entend par là.
Alors, il se trouve que j'avais noté l'autre jour que c'était l'article 647 du Code civil. Mais je dois avouer que je ne suis pas allée voir.
Bon, on le note et on fera des recherches.
Bon, le fait est que si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes comme chez ma compagne dans un endroit protégé par une clôture et que vous avez mis un gros cadenas sur le portail d'entrée de la maison. Et si éventuellement vous avez mis propriété privée dessus, je ne sais pas quoi, bon, le gars d'Enedis, il ne va pas forcer la porte, il n'a pas le droit. Quoi, il va pas...
Souvent, les compteurs sont sur
oui, le problème, c'est à l'extérieur. Oui, le problème, c'est à l'extérieur.
C'est ça, c'est ouais. Même pas derrière.
Ouais. Après, il y a une histoire de bornage.
Oui, oui, oui.
C'est sur la partie qui nous appartient.
Oui.
Et du coup, légalement, je ne sais plus lesquelles.
Oui.
Ouais, mais là...
Sur les infractions, ça figure là-dessus.
Mmh. Bonsoir. Moi, je voudrais poser une des questions. Donc, on revient sur cet capteur. Et vous avez parlé donc de surchauffe. Est-ce qu'une évaluation a été faite sur ce qui peut arriver sur la santé des gens? Est-ce que vous avez des échos de ça? Est-ce que vous avez quelque chose de conséquence par rapport à toutes ces radiations, cette surchauffe?
Ah oui, non, c'était... Non, mais je ne parlais pas... Oui.
De la planète. On parlait de surchauffe pour la planète et du fait que les données collectées rentrent dans ces data centers qui consomment beaucoup d'électricité et qui donc surchauffent. C'était ça, hein. Pas qu'il y ait de confusion dans notre discours. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme toute nouvelle... comme toute innovation technologique et industrielle, Linky arrive avec son lot de nuisances écologiques et sanitaires. C'est-à-dire qu'il il consomme des ressources et des terres rares et beaucoup d'eau pour être fabriqué, qui pollue quand il est démonté, comme tout objet électronique, donc ça c'est pour l'environnement. Ensuite, pour la santé, il fait partie d'un système global
d'interconnexion, c'est-à-dire que ça fonctionne en partie avec l'utilisation d'un certain nombre d'ondes électromagnétiques, basses ou hautes fréquences diverses. Nous, si vous voulez, notre position, elle est de dire que ce qui va se passer, c'est que tout ça, ça contribue à épaissir un peu plus un brouillard électromagnétique qui est déjà très épais. Très épais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier que ça en rajoute une couche, très bien, mais ça rajoute une couche à un millefeuille. Et que si notre préoccupation première, c'est la question de la pollution électromagnétique de notre environnement, alors il y a une urgence à faire des collectifs anti-téléphone portable, anti-Wi-Fi et anti-objets connectés. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Linky, c'est une petite couche par-dessus, ok, mais on ne peut pas dire que c'est le plus gros émetteur. C'est ça que je veux dire. Il faut toujours proportionner les choses.
C'est leur argument, d'ailleurs.
Oui, mais ils ont raison. De fait, ils ont raison. La 5G, c'est 10 fois pire, quoi. C'est 10 fois pire.
La 5G, c'est surtout pour les voitures électriques.
C'est une catastrophe, la 5G. Effectivement, là, il y a des soucis à se faire.
La 4G, c'est pas mal.
La 4G, bien sûr. C'est pour ça que la téléphonie mobile, c'est une catastrophe sanitaire. C'est certain.
Au sujet, je veux rebondir sur la question de la clôture du compteur. moi, j'ai soudé le mien. Ouais. Grillagé, ouais. Le relevé à pied EDF passé il y a une semaine, ouais. L'employé a pris la photo et a dit: vous avez raison, monsieur.
Oui, moi aussi.
Je vais perdre mon travail. Ouais. J'ai déjà plus de relevé à Mariol, etc. Quel quartier, bon. Ce qui avait été fait, je le dis pour il y a des gens qui sont un peu frais là. Nouveaux arrivants, je veux dire. Il y a déjà eu un cas qui a été jugé au tribunal de La Rochelle avec un monsieur qui s'est défendu, un pompier costaud, dit la légende, qui a reconduit fermement par le collet un poseur d'EDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu sur Internet, et c'est sérieux, qu'il y a un certain nombre de passages à l'acte et de bris de clôture de ces gens qui sont menaçants. Il faut prévenir systématiquement les personnes les plus faibles autour de vous. Que deuxièmement, vous avez le droit de clôturer ce compteur, vous avez le droit de le souder, vous avez le droit de vous y opposer. De placarder devant et de prendre des photos, de placarder l'avis, de refus de ce que vous avez envoyé au maire, etc. Je crois que j'ai été clair. Mmh. Voilà.
Bonjour, c'était pour aller dans le même sens que ce monsieur. Moi, ça s'est passé cet après-midi. Donc, ils sont venus pour me placer le compteur Linky. J'avais apposé sur mon compteur qui est extérieur de la clôture, donc sur la rue. J'ai simplement apposé l'affichette de refus du compteur et l'agent m'a téléphoné pour qu'on en discute. J'ai maintenu mon refus, il a pris la photo, j'ai dit que j'avais envoyé un courrier recommandé et ça en est resté là.
Ça dépend des cas de figure. Hein. Oui, des fois, ça dépend des sous-traitants.
J'ai eu un avis de passage. Il me signalait qu'il allait passer entre le 14 et le 21. Donc, je me suis empressée d'envoyer des recommandés à Enedis le 10, un recommandé à EDF le 10, et ils sont intervenus le 19.
Ben oui.
Oui.
Tout à l'heure, juste un petit détail. Hein. C'est récent, ça date de un ou deux jours. J'ai téléchargé ça. C'est une décision de l'ANSES qui est une instance de santé européenne. Qui dit
non, française.
Dans un rapport qu'il faut se préoccuper de l'électrosensibilité. Et donc, s'en préoccuper, ça veut dire que ça commence à être reconnu, même si s'en préoccuper, c'est tenir compte des pathologies, peut-être, et essayer de les étudier, de les traiter, surtout.
Non, mais j'ai entendu l'interview de la personne de l'ANSES. Là. Bon, ce qu'elle dit, c'est qu'un certain nombre de personnes font état de symptômes, maux de tête, insomnie, picotement, etc. etc. Bon. Mais que scientifiquement, on n'arrive pas à établir la corrélation entre leurs symptômes. Ils ne nient pas les symptômes. Ils ont fait du chemin. Ils ont dit, bon, il y a des symptômes, il y a des gens qui se plaignent, il faut les écouter, il faut voir de quoi il s'agit. C'est vrai, ils souffrent, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas faire, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas faire le lien entre ces symptômes et Linky. Bon. Donc d'un côté, il faut soigner les symptômes, ça oui, mais d'un autre côté, ils disent qu'il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, ils ne connaissent pas de lien avec le Linky, quoi. Mais c'est des symptômes qu'on peut attribuer à plein. Oui, enfin, il y a avoir mal à la tête, ne pas dormir, sentir. Bon, c'est répandu.
Les écrans font pas du bien.
Les écrans font pas du bien du tout.
Les antennes relais.
Oui,
et c'est vrai que quand même, il existe un principe dans la loi française, c'est le principe de précaution, hein, qui n'attend pas forcément que la corrélation, le lien de causalité existe, hein, mais c'est qu'en l'état actuel des données de la science, ce principe de précaution peut s'appliquer. Ça, c'est dû pour d'autres choses, hein, pour d'autres sujets.
Mais je vous signale que les fabricants, pour se prémunir, les fabricants de téléphones portables ont émis des recommandations en disant, si vous les lisez vraiment, c'est à hurler de rire, qu'il ne faut pas utiliser, il faut pas passer des coups de fil de plus de 2 minutes et il ne faut pas utiliser son téléphone plus de X temps dans la journée. Voilà. Et puis, moyennant quoi, vous avez des forfaits illimités. Et il faut pas les donner ils disent qu'il ne faut pas les donner aux enfants de moins de 14 ans. Allez dans les cours des collèges.
Ça va changer au mois de...
Bah peut-être. Oui, mais ils les auront à la maison.
Alors, je vais quand même, en tant que juriste, même si je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas vu, tout ce que je sais, c'est que cette loi qui passe, en tout cas, une loi, qu'elle soit, quand dès qu'elle est promulguée, elle est valide. Les décrets d'application peuvent arriver après. Ouais. Elle est d'application directe. Une fois qu'une loi est promulguée, et quand elle est promulguée, ce n'est pas le président qui le décide. Ouais. Elle passe par le Parlement. Et une ordonnance, c'est une habilitation du Parlement. Elle fait ce qu'il veut. Ouais. Donc une loi, quand elle passe, même si elle n'a pas ses décrets d'application, elle est valide. Le décret d'application, c'est juste d'ordre pratique. On fait des circulaires, on informe, on décentralise. La réflexion que je me fais là, on est désarmé. Et moi, tout ce que je sais, c'est que cette loi, en tout cas, n'est pas passée par le Conseil constitutionnel. Les parlementaires, c'est-à-dire que dans le droit français, les parlementaires peuvent décider de saisir le Conseil constitutionnel s'il y a une atteinte à la vie privée, comme dans le cas du Linky. Or, à l'époque où cette loi autorise à l'installation du Linky, on ne sait pas ce que le Linky faisait. Mm. Justement, on voit ce charabia. Mm. Aujourd'hui, on sait à quoi sert le Linky. Oui. Il est une intrusion dans la vie privée. C'est et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ceux qui ont voté la loi avaient cette arrière-pensée de dire qu'il y aurait deux libertés qui rentreraient, qui s'entrechoqueraient. Le principe de protection de la vie privée et le Conseil constitutionnel. Il faudrait changer la Constitution pour supporter le Conseil constitutionnel. Mm. Et là, ce n'était pas possible. Et comme cette loi n'a pas subi de contrôle a priori par le Conseil constitutionnel, elle pense subir un contrôle a posteriori. Puisqu'aujourd'hui, la révision constitutionnelle de 2008, faite sous Sarkozy, permet à un citoyen de demander au Conseil constitutionnel. Par exemple, demain, vous allez en justice et vous dites, moi, je ne veux pas le Linky. Je vais en justice. Mais il faut que vous ayez un intérêt à agir. Et en général, c'est des sociétés de consommation qui défendent. Ouais. Moi, j'ai vu que UFC Choisir avait fait un truc sur le Linky dans son dernier numéro. Ouais. Donc, vous allez devant le Conseil, vous allez devant la Cour de cassation. La Cour de cassation dit, moi, je ne peux pas me prononcer. C'est le Conseil constitutionnel qui décide. Et là, le UFC Choisir présente tous que le Linky, enfin, que le Linky est une intrusion dans la vie privée, les données, tout ça. Et le Linky peut être interdit. Deuxièmement, moi, j'ai vu un avocat qui parlait de la cour des communautés européennes, c'est-à-dire pour remettre en cause la directive elle-même. Ouais. Moi, je pense qu'avec la liberté du commerce, vu la forteresse libérale que c'est l'Europe, ça ne passera pas. Ouais. Par contre, on peut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, protège, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, protège. Parce que là, on est en train de chercher comment faire pour se protéger nous-mêmes. Ouais. Forcément, mais si beaucoup demain de citoyens se mettent tous à refuser le Linky, rien n'empêche que demain qu'une nouvelle loi supplante la première pour l'imposer.
C'est ça, c'est bien sûr.
Et on est les armées.
C'est ça, monsieur.
Voilà.
Ouais. C'est intéressant.
Vous parliez de loi constitutionnelle, il n'y en a qu'une de loi constitutionnelle sur le sujet. C'est celle concernant la charte de l'environnement de 2004 qui a été promulguée en 2005 et qui est érigée en loi constitutionnelle. C'est le numéro 205 2005.
Elle fait partie de notre droit constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, lorsqu'il valide ou pas la loi, il regarde ce que la Constitution et les textes qui font partie du bloc constitutionnel. Ouais. Cette loi-là, il n'a pas eu à se prononcer. Il n'y a pas eu de contrôle.
La transition énergétique, on parle de celle-là.
Et ça touche donc le droit de vie
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Mmh. Et c'est en lien avec le principe de précaution dont je parlais tout à l'heure.
D'accord.
Voilà. Donc, il faut peut-être mettre le sujet sur la table dans ce domaine pour que le Conseil constitutionnel puisse statuer.
Et un citoyen peut le faire.
Tout à fait. Donc, je pense qu'on a du boulot, on a des actions à mener, et il va falloir qu'on se
Non, mais il faut que je lui parle en privé après, parce que je ne vais pas le faire parler de ça.
Des pièces détachées sur les voitures qui, quand un garagiste quand un garagiste doit réparer une voiture, donc cette loi autorisait les pièces de réemploi. Et moi, j'étais intéressée puisque ma voiture est vandalisée, j'ai saisi le député de notre région qui était à l'origine de cette loi. Et à l'époque, il m'avait dit que les décrets n'étaient pas sortis. Et je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, les décrets ont dû passer au 1er janvier 2018. Voilà. Parce qu'il y avait un litige par rapport à ces pièces, savoir quelles étaient celles qui étaient dangereuses et pas. Et donc, ils avaient pris du temps. Et a priori, normalement, ça a dû passer vers le 1er janvier 2018. Ou 1er janvier 2017, mais je crois que c'est 2018. Voilà. Alors donc, a priori, si c'est le cas, si c'est la même loi, c'est passé.
Non, mais une loi, par exemple, elle dit la loi de transition pour le lithium. La loi dit un ensemble intelligent. Elle ne dit pas le lithium. C'est les décrets qui devraient dire que c'est le compteur. La loi ne parle pas du lithium, je vous prête.
Ah, ben non, elle n'a jamais parlé du lithium.
Exactement.
Hein. Jamais.
Donc c'est pour
jamais.
Ça qu'on a besoin des décrets d'application.
Bon, si on met un homme là-dessus.
Moi, je crois que j'ai envie de nous titiller un peu là, tout un chacun et moi-même. Parce que, donc, il y a une grosse interrogation. Est-ce que c'est légal de refuser l'INCI? Et quand bien même, ce ne serait pas légal de refuser l'INCI, s'il y a nécessité à le refuser de bonnes raisons qui rendent légitime l'action elle-même, là, il faudrait le faire, a priori. Après, en fait, dès qu'on touche à notre santé, en fait, on s'alarme très vite. Alors là, on se fait peur avec les ondes électromagnétiques, tout ça. Mais en fait, dans une certaine mesure, la voiture est là dans chacune de nos vies. Et ça pose des problèmes, en fait. Donc, on est face à des paradoxes permanents, les seuils de dangerosité dans lesquels on vit déjà, on ne s'en alerte plus. Et en fait, on reçoit la nouveauté de quelque chose qui, tout d'un coup, nous réamorce des angoisses ou comme ça, la peur de, la peur d'être malade ou de mourir à son insu. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de domaines sur lesquels on peut s'interroger au jour le jour et dans lesquels on est pris et dans lesquels on a mécanisé nos vies. Voilà. Donc, bon, l'exposé, je le trouve très super intéressant dans le fait de l'avoir fait remonter aussi historiquement aussi loin, quoi. Mais,
Jules César.
mais voilà, en fait, ne soyons pas dupes de nous-mêmes et des travers dans lesquels on est déjà plutôt bien engagés, quoi. Donc, le recours, je trouve, à la maladie, c'est-à-dire à la petite peur de soi. Qu'on ne prenne pas soin de nous, je ne sais pas, je pense qu'il est...
Bah, non, mais je vais le résumer
de... Je ne trouve pas juste, même s'il est légitime.
Non, mais moi, je vais le résumer de...
La question, c'est peut-être qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher dans notre mode de vie quotidien pour être en cohérence avec...
Enfin, Marie-Christine.
Monsieur, moi, je voudrais justement dire quelque chose par rapport au code d'Arlinkie. C'est quand même
c'est la seule chose qu'on
dépose. Oui. Alors moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un portable, c'est une cabine téléphonique dans ma poche. Si j'ai envie d'éteindre, je l'éteins. Mais ça ne change pas le problème que, bon, la télévision, si je la veux, je la prends. Mais jusque-là, aujourd'hui, j'avais le droit de décider. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'avoir un cancer ou j'ai peur de ci, de là. C'est qu'on m'impose quelque chose et je n'ai pas envie qu'on me l'impose.
Eh ben, on va le rendre facultatif. Oui.
Marie-Claire, J'ai t'as exprimé en partie un malaise que j'avais. Effectivement, pour vous le dire brutalement, même si le Linky était parfaitement sain, je serais à 100% contre Linky. Et la plus grande des pollutions, pour moi, c'est pas la pollution électromagnétique, c'est la tyrannie technologique. La comparaison que tu as choisie avec la voiture, merci, c'est celle que j'utilise d'habitude dans toutes les conférences. La première cause de mortalité en France, maladie cardiovasculaire. Bon, la deuxième, c'est quoi déjà ?
Cancer.
Cancer. Maladie cardiovasculaire, ça veut dire mal bouffe, mal vie. Trop de temps devant la télé et trop de graisse dans la nourriture.
Sédentarité.
Le cancer, sédentarité, oui, bon. Cancer, avant la guerre de 14, il y avait une petite partie de la population qui mourait de cancer, ça faisait partie des maladies de la fin de vie. Bon, aujourd'hui, les chiffres sont faramineux et ça fait partie de ce que le professeur Bolton appelle les maladies de civilisation. Quelle civilisation ? La société industrielle. Sur le téléphone portable, est-il imposé ? N'est-il pas imposé ? Est-ce que je peux en faire ? Est-ce que je peux en faire ? Bon, moi, je n'ai pas de téléphone portable. Mais je subis quand même les ondes électromagnétiques du téléphone portable, de tous les gens qui utilisent des téléphones portables. Et dans la cuvette grenobloise, il y a toujours... je découpe tous les articles, je suis un maniaque. J'ai un dossier plein de coupures téléphoniques du collectif des parents de Fontaine, des habitants de la Villeneuve, de ceci, de cela, qui protestent contre la présence d'antennes téléphoniques près de chez eux, et qui se félicitent quand on déplace ces antennes. Dans le comité Linky, on a des gens de la Villeneuve qui ont commencé comme un collectif anti-antennes, etc. Et je leur dis, eh oui, et les antennes, elles sont où maintenant ? Chez les autres. Bon. Il se trouve que par ailleurs, je trouve que le téléphone portable, même s'il était parfaitement sain, pour moi, lambda, individu lambda dans la vie quotidienne, je pense que pour de multiples raisons qu'on avait exposées dans un petit livre épuisé, le téléphone portable gadget de destruction massive est une pollution sociale monstrueuse. Ça détruit les relations.
Bon.
Et quant à la télévision a tué les bistrots. Alors dans les bistrots, on se peintait la gueule, mais c'était une grande cause de l'alcoolisme, mais on parlait, on partageait, on tapait le carton, on chantait des chansons, on parlait de ses affaires, on parlait de sa vie privée, on parlait de l'un et de l'autre, on déblatérait, et on parlait politique. C'était ce que Balzac appelait les parlements du peuple. Bon. Donc le peuple parlait au peuple, il n'y a plus de bistrot, maintenant le pouvoir parle au peuple, et c'est un monologue sans réplique. Donc je suis contre la télévision également. Voilà.
La bougie. La bougie.
Oui. Je vous remercie de tout ce que j'apprends là. Par contre, j'aurais voulu quelque chose de plus pragmatique. Je suis locataire. Mon compteur est dans le couloir. Le compteur, il appartient à qui ?
À votre commune.
À la commune.
À la
mairie.
Bon. Comment je peux protéger mon compteur ? Comment je peux empêcher de mettre mon compteur ?
Alors, vous pouvez faire comme notre camarade de la banlieue grenobloise, Julien. C'est à Pont-de-Clay. Pont-de-Clay, c'est la commune chimique au sud de Grenoble. C'est un gars qui a fait vraiment un superbe travail de voisinage. Il a été voir tous ses voisins, tout le quartier, etc. Il a mobilisé tout son quartier HLM. Et ils ont fait une manif devant la mairie. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il y avait plein de locataires, plein de milieux populaires. Hein. Et lui-même et quelques autres, ils avaient barricadé leur compteur. Bon. Donc, en principe, ils étaient peinards pour un moment. Le sous-traitant d'Enedis est passé. Et comme il était malin, il a fait une dérivation. C'est-à-dire que le compteur était resté en place, barricadé.
Il a posé
son Linky à côté et il a fait une dérivation.
Il y avait de la place.
Il y avait de la place. Mais comme on est encore plus malin que Nedis, notre service technique est retourné dans la cage d'escalier et a fait une seconde dérivation. On a enlevé le Linky et on a rebranché sur le vieux compteur. Puis, collectivement, à une cinquantaine, nous sommes allés à une réunion de la métro, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de Grenoble, la GAM, la Grenoble Métro, et en, devant tous les élus, la soixantaine d'élus rassemblés, on a rapporté le compteur en leur disant « ça, ça vous appartient ». Et on a fait une intervention contre le compteur et les 10, d'autant plus que la métro, toutes tendances confondues, les Verts, les communistes, les socialistes, les gens de droite, les divers rien, bon, tous avaient voté un vœu en disant « Linky, c'est obligatoire, et d'ailleurs, c'est bien, c'est écologique, il faut soutenir, et il y en a marre de toutes ces craintes irrationnelles, et patati et patala ». Et d'ailleurs, le premier Linky de France ont été posés à Échirol en 2012, communauté communiste 15, du sud
2015,
de Grenoble. 2015, bon, et ils s'en félicitent. Mais le copain n'a pas lâché l'affaire.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais le copain a tenu bon avec son nouveau, enfin son vieux compteur, donc qu'on avait remis en service. On a fait un roman photo, on l'a diffusé, tout ça. Bon. Et finalement, il a reçu un coup de fil d'Enedis qui lui disait bon, mais c'est pas tout ça, mais vous êtes dans l'illégalité. Vous payez pas votre électricité.
Ouais, il marche pas, en fait. Le compteur marche, mais il n'est pas homologué. Il tourne, mais il n'est pas homologué.
Oui, enfin, le compteur n'est pas homologué. Il a dit, bah, vous avez qu'à l'homologuer. Ah, mais c'est pas possible, c'est un vieux morceau, etc. On peut pas... Bon. Fin de l'histoire. Jeudi 22 mars, on a tous été, donc la même cinquantaine de gens chez le copain en question, et le gars d'Enedis est venu remettre en service un compteur non Linky et déposer le Linky. Donc, c'est un cas unique.
Sans intervention judiciaire,
il n'y a pas de judiciaire, il n'y a pas d'avocat, il y a simplement
un rapport de force.
Des électriciens. Attention, on ne fait pas soi-même. Ça veut dire qu'il y a des électriciens responsables, des gens qui connaissent, qui savent bricoler. Bon. Et il est appuyé par le collectif qui le soutient à tout point de vue, juridiquement, politiquement et physiquement. Voilà.
Comme quoi, l'union fait la force.
Oui, oui, absolument.
L'union.
Oui, bon, allez.
Vous voulez qu'on le dise rapidement? Bon.
Ils en peuvent plus.
Donc, on a été reçus ce matin, très bien, d'ailleurs. Hein, Claire, tu me coupes, je parle sous ton contrôle. Donc, on a été reçus une bonne demi-heure, de manière très courtoise. Donc nous avons... L'idée, c'était pas de lui sortir tous les textes de loi, etc. etc. L'idée, c'était de lui faire comprendre quelle était la responsabilité de la mairie, puisque la première chose qui a été dite quand nous avons pris rendez-vous, c'est de toute façon, la mairie peut rien faire. On a dit, écoutez, on vient prendre rendez-vous, on est une petite pute toutes les deux, donc voilà. Donc ce matin, on lui a quand même exposé la responsabilité de la mairie en la matière, que ce n'est pas parce qu'il y a une concession auprès du SMED 13 que sa responsabilité est dédouanée. Nous avons aussi abordé la question du déclassement des compteurs. Apparemment, il n'avait pas l'air au courant qu'il fallait déclasser les compteurs pour pouvoir donc les remplacer. Donc du coup, je dis, vous voyez, en fait, Enedis est déjà en train de vous mettre en difficulté, puisqu'il remplace quelque chose pour lequel vous ne lui avez pas donné d'autorisation. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été orientés vers le directeur de cabinet de la mairie par l'entremise de M. Koukas, donc conseiller municipal, et qui agit aussi auprès de la communauté de communes, puisque nous avions demandé un rendez-vous déjà depuis le mois de janvier. Donc, M. Koukas nous ayant par ailleurs proposé de travailler le 5 avril prochain avec le service juridique, le service responsabilité des fluides et le service qui est en lien direct avec Enedis dans la perspective de produire un arrêté municipal. Donc nous avons dit oui à cette proposition parce qu'il ne faut pas être
complètement non plus bornée et puis dire faudrait yaka, c'est pas du tout le genre de la maison. Donc nous lui avons fait part donc, de cette perspective et de cette prochaine rencontre que nous aurons avec M. Koukas et cette réunion de travail, hein, c'est plus une réunion du travail. Et puis nous lui avons aussi fait savoir que nous étions en lien aujourd'hui avec 15 comités. 15 comités, puisqu'au fur et à mesure, parce que bon, vous commencez à être de plus en plus nombreux, aujourd'hui sur notre liste de mails, on a 270 adresses mail, dont 15 comités. On communique régulièrement et tous les jours arrivent de nouvelles personnes qui s'inscrivent et qui demandent à avoir de l'info. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits tout à l'heure, vous pourrez nous donner, nous vous donnerons l'adresse du comité et vous pourrez être joints à cette liste. Donc, nous avons signalé au directeur de cabinet que ben, nous étions en lien avec ces comités et que nous avions des personnes ressources très intéressantes parmi ces personnes, dont certains sur le volet juridique et qui ont créé des documents que nous sommes en train d'étudier, d'analyser, justement dans la perspective aussi de travailler sur des arguments légaux, réglementaires, factuels qui ne pourraient pas être déboutés auprès d'un tribunal. Donc la prochaine étape, c'est d'aller sur ce projet réglementaire et législatif dans le but de produire des arrêtés municipaux qui ne soient pas attaquables. Hein, c'est ça l'idée. Voilà. Et après, bon, ça a été très fructueux. Hein, il a vraiment été très, très, très gentil. Enfin, très gracieux, très ouvert. Voilà. Voilà. Oh, bah alors. Nous avons bien sûr eu la visite de Monsieur le maire aussi, très, très vite, en deux, trois mots, qui nous a fait un discours au 5e ou 6e degré et que nous avons pris avec beaucoup d'humour. Voilà. Voilà donc pour la rencontre de ce matin. Plutôt positive. Et nous serons amenés à revoir un petit peu les choses. Et aussi, ce que nous avons demandé à M. Koukas, c'est d'ouvrir la discussion sur l'intercommunalité. Puisqu'il siège tous les mardis en communauté de communes, on lui a dit, nous souhaiterions que soit associée à la réflexion une personne de l'intercommunalité pour aussi faire le travail sur les mairies aux alentours. Et nous avons aussi demandé que soit rajoutée à cette réunion la personne référente au niveau de la mairie concernant la santé, puisque c'est quand même un problème aussi qui la concerne. Voilà.
De la députée d'Arles, je voulais savoir si vous aviez l'intention de faire une démarche auprès de la
cinéma,
députée.
On essaye. Et en sortant de la mairie, on est allé à son bureau. Voilà, donc nous avons rencontré les deux personnes qui étaient là, dont son attaché parlementaire, et nous avons donc donné des arguments qui vont susciter, à mon avis, son interrogation, et nous avons insisté pour être reçus. Voilà. Madame Monica Michel.
Est-ce que je peux...
Non, s'il te plaît.
Je voulais rajouter quelque chose.
Juste un point pour vous dire que bon, c'est très important de faire pression sur les élus et d'essayer de leur faire prendre conscience de l'enjeu de Linky. Mais si tout ça fonctionne encore, c'est parce que la pression sur le terrain individuel et collectif des habitants ne relâche pas. Donc ne vous reposez pas sur le fait que des élus éventuellement vont prendre un arrêté, etc.
Oui, c'est important.
La seule chose concrète que nous pouvons faire, c'est ralentir et empêcher Enedis d'avancer. Tout compteur empêché d'être posé est un gain de temps pour permettre d'élargir le rapport de force. Nous avons un seul objectif, c'est d'établir un rapport de force qui nous soit favorable. Pour ça, ça veut dire qu'il faut élargir et approfondir les deux choses. Donc, barricadez vos compteurs. Si vous ne pouvez pas le faire, donnez de faux rendez-vous. Donc ça, c'est une tactique qui marche aussi. C'est-à-dire que vous appelez, quand on vous envoie le courrier pour vous dire qu'on va venir... Vous appelez, vous dites, écoutez, je vais être en vacances, je ne sais pas quoi, je voudrais prendre un rendez-vous. vous prenez rendez-vous, le jour du rendez-vous, vous êtes avec vos voisins, vous êtes avec le collectif, vous êtes avec d'autres gens, vous accueillez le poseur, vous lui offrez le café, vous lui expliquez qu'il est venu pour rien, gentiment. Et donc ça, c'est des pertes de temps, et c'est... ouais, c'est du temps gagné pour nous, voilà. C'est aussi des choses possibles quand on ne sait pas barricader, c'est, on peut aussi faire ça. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, mais en tout cas, il ne faut pas relâcher cette attention-là sur le terrain. Et l'autre chose, juste parce que après, je ne sais pas si j'aurai encore la parole, j'en profite, pour dire que moi, à titre personnel, enfin, et puis même collectif, je remercie Enedis de ce projet Linky, parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion, grâce à eux, de discuter sur, au fond, quels sont nos vrais besoins en matière d'électricité. On avait tellement pris l'habitude d'appuyer sur un bouton, et puis que, voilà, on ne se pose pas tellement de questions, que finalement, on a fini par mettre de l'électricité partout, y compris éclairer les villages la nuit, y compris faire l'école numérique avec des gamins qui sont branchés sur des écrans, y compris s'équiper de gadgets dont on n'a pas besoin. Et donc, si Linky nous sert à quelque chose, c'est d'abord à réfléchir à nos besoins, vraiment, individuellement et collectivement. On peut aussi, tant qu'on y est, faire pression sur les élus pour qu'ils éteignent la lumière la nuit. Il y a plein de choses à faire. Et voilà, moi, à titre personnel, j'ai plus de frigo depuis 3 ans, mais c'est grâce à Linky, je rigole pas, c'est vrai. Il y a tout un tas de réflexions à lancer sur comment on va vraiment réduire notre consommation d'électricité. Parce qu'en fait, on sait comment réduire notre consommation d'électricité, hein. Il suffit de réduire notre consommation d'électricité.
Mais j'ai froid à Grenoble, c'est pour ça que je
n'ai pas l'été. Exact, mais l'été, il fait très chaud. L'été, il fait très chaud, et c'est pas marrant. Mais ne serait-ce que déjà, si on coupait tous nos frigos l'hiver, hein, ce serait... Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'occasion de repenser, un, à nos vrais besoins et à comment limiter notre consommation, et deux, à réfléchir, peut-être, à comment se produit l'électricité, comment... On pourrait imaginer des systèmes locaux, revenir à avant 46 et avant tout ça, quand l'électricité était produite localement aux mains de petites structures associatives, coopératives, locales. Et pour le coup, je dois dire que la loi nous y autorise un peu plus. Ça, j'ai découvert ça aussi grâce à Linky, puisque une loi est passée qui autorise l'autoconsommation. On était dans un système débile, ou qui revenait en gros à faire son potager pour amener ses légumes au supermarché pour les vendre. C'était exactement ça pour l'électricité. C'est-à-dire que vous vouliez produire de l'électricité avec un système autonome local, mais il fallait le réinjecter dans le réseau. Bon. Ça, il faut militer pour ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, on peut auto-produire, auto-consommer, mais on est encore obligé de passer par les fils d'Enedis qui nous embêtent. Donc, il va falloir continuer la pression là-dessus. Et maintenant qu'on a mis le doigt dans la prise, eh ben, il faut continuer.
Bon, moi aussi, je vais finir pour moi. Je vais enfoncer un peu le clou, là, et boucler avec ce dont je vous parlais au début, à propos de Linky comme petit dispositif, comme petit symptôme. Ce qui est en question quand on tire sur le fil d'Enedis, enfin le fil de Linky et qu'on voit ce qu'il y a au bout, c'est la société électrique. Si on vous dit, par exemple, dans quelques mois, on vous le dit déjà, on vous abreuve de publicités, d'articles et de reportages qui vous disent qu'on va lutter contre le réchauffement climatique en partie grâce à la voiture électrique. Bon, la voiture électrique, c'est une voiture nucléaire. Si vous êtes pour la voiture nucléaire, vous devez accepter que les gens de Bure vous disent... Bon, mais vous êtes d'accord aussi pour enterrer dans votre garage les déchets du nucléaire, de votre voiture. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut réexaminer, passer au tri, et peut-être des assemblées comme celle-ci seraient le bon endroit pour le faire, tout ce qui marche à l'électricité, et se dire qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du besoin, et qu'est-ce qui est de l'ordre du superflu. Et tout ce qui, en partant du principe que tout ce qui est superflu, maintenant on le sait, n'est pas simplement superflu, mais nocif, nuisible. Donc il n'y a plus que deux catégories, utile, nuisible. Bon. Et donc je pense qu'il faut que nous visions la ruine de Darty et de la Fnac, puisque c'est essentiel d'Amazon. Des produits blancs, et d'Amazon. Bon, il faut... Non mais sérieusement... Il faut absolument qu'on passe qu'on passe sur le grill toute la société électrique et qu'on voit ce qui est vraiment de l'ordre du besoin et ce qui est de l'ordre du nuisible.
Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, en fait, c'est l'énergie libre, en fait. Les panneaux solaires, tout ce qui est tout ça. Donc, en fait, la maison autonome.
Oui, c'est
on
ça.
On n'a pas parlé de tout.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est l'autoconsommation.
Tu vois ici surtout des gens qui sont nés avant la période des téléphones portables, donc peut-être lutter contre Darty, Fnac, etc. Mais il va falloir aussi lutter contre nos enfants.
Oui. Ah bah, bonne chance.
Bon, ben, c'était juste, justement, ça revient là, au niveau de la liberté individuelle, là, bon, c'est facile de se priver de, enfin, de se priver, de ne pas avoir de brosse à dents connectée et autres, télé si on n'en a pas envie, etc. Par contre, moi, je me pose la question, jusqu'à quand on aura la liberté de ne pas avoir de smartphone pour acheter un billet de transport, par exemple.
Ou payer ses impôts.
Les transports publics, les transports collectifs, on va dire.
Attends,
et je ne sais pas trop jusqu'à quand on va pouvoir ne pas avoir de smartphone
pour les impôts.
Mais c'est ça la tyrannie technologique. Ouais. C'est ça la tyrannie technologique. Maintenant, vous êtes obligé de déclarer vos impôts sur Internet.
La carte grise.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire passer une feuille en disant que les personnes qui ont assisté ce soir à cette réunion s'oppose à la pose de compteur Linky. Et comme ça, vous pourriez aller le 5 avril avec tout un tas de signatures.
Alors, je vous rassure de suite, ce qui est plus important, on a fait une motion déjà. On a déjà fait une motion à la première réunion qu'on a remis à la mairie. Ça n'a pas bougé grand-chose. Par contre, ce matin, j'ai oublié de vous le dire, le directeur de cabinet nous dit un moment, mais c'est à vous alors que je dois tous ces courriers qu'on reçoit sur le Linky. J'ai dit oui monsieur, c'est à nous. Donc il faut continuer à écrire individuellement et dites-le à vos voisins. Elle a raison Ségolène, c'est en parlant à tout le monde autour de soi, c'est pas quand vous serez sorti de cette salle, vous allez à votre maison, regardez votre télévision, et c'est très bien, il y a un bon sujet ce soir. Pour les footeurs, il y a du foot. Bon.
C'est un bon sujet.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir intellectuellement sur une assemblée, une réunion à un moment donné. Il faut que ça diffuse, il faut que vous en parliez autour de vous, il faut que vous ameniez du monde au comité pour faire pression. Et il faut envoyer les lettres au maire, il faut les envoyer individuellement. Et ça a beaucoup plus d'impact qu'une pétition. Ça, on l'a vu. Hein. Qui c'est qui veut encore poser?
Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que les deux sont nécessaires. Et je pense que si tout le monde signe ce soir, et quand vous irez le 5 avril, avec il y a une évolution entre votre première. Voilà. Et maintenant, il y a une évolution. Et elle sera peut-être reçue d'une autre façon.
On va faire une pétition.
Ouais, très bien.
Voilà, très bien. Très bien.
Il y a qu'à signer, tout ça va. De l'incompagnie.
C'est très bien.
Il faut mettre le nom, l'adresse.
Allez.
Moi, je voulais vous remercier. C'était la première fois que j'assiste à vos réunions. Je trouve ça passionnant. Mais la question que je me pose, quand est-ce que ce type de réunion pourrait se passer à. Vous connaissez un peu Arles ?
Oui.
À Bariolles.
Trouvez-nous une salle.
Les quartiers. Trouvez-nous une salle. Vous êtes initié, vous êtes tout le monde sacré, et donc c'est lieu dont je parle. C'est absolument une nécessité absolue de prendre conscience du problème, d'être un minimum informé et sans à mille années-lumière du sujet que vous évoquez.
Eh bien, madame, trouvez-nous une salle en ville.
Oui, ou la MJC ou le centre social. Nous, on en a fait dans des.
Ah oui, on demande la pièce en grand, mais on n'a pas forcément des accords. Trouvez-nous une salle. Vous nous dites, on a telle salle tel jour, un mois avant quand même, qu'on puisse s'organiser, parce qu'on a une vie aussi. D'un côté, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, il n'y a pas de problème.
À Bargueil, il y a le centre social, là, je pense au centre social. Si vous le demandez par l'intermédiaire de la mairie, on a la salle, il la donne, il n'y a pas de souci là-dessus. Votre démarche est au-delà, votre démarche est une démarche nécessaire, c'est un préalable nécessaire, mais ça ne réglera rien du tout. Et moi, je suis désolé de vous dire, je suis très pessimiste, parce que tout à l'heure, vous disiez,
qu'on va essayer de faire en sorte que le décret ne soit pas retoqué. En réalité, le maire, il peut tout de suite prendre un décret et dire je décide d'interdire le LinkedIn à ma commune. Parce que la loi, on part du principe 1, la loi ne dit pas, la loi permet au LinkedIn d'être installé, mais elle ne l'oblige pas à l'installer. 2, quand la loi a été votée, on ne connaissait pas toutes les implications que provoquait le LinkedIn sur notre vie privée. 3, la loi n'est pas passée par un contrôle. 4, toute loi peut être attaquée. Il suffisait au maire de dire je prends un décret, quel que soit le décret, je le mets en bonne et due forme, et le décret va être attaqué. Contrôle de légalité, par exemple, du préfet, et le décret est attaqué. Justement, la mairie va devant la justice. Et on met le LinkedIn, et le maire, ça, il suffisait cours, de venir avec les associations de consommateurs qui, elles, connaissent les dangers, qui ont l'expertise. Là, je pense que c'est simplement de la flûte, et vous verrez, ça va dans le temps, ça va continuer dans le temps, et vous verrez. Et là, je pense, deuxièmement, on parle là comment barricader nos compteurs, comment faire et tout. Alors, évidemment, quand c'est chez nous, c'est privé, et on peut s'opposer à tout ce qui est une intrusion privée. Hein, simplement, c'est une solution de court terme. Moi, je pense vraiment, moi, je n'ai pas l'expertise. Il y a des associations, notamment la vôtre, et vous avez l'expertise. Simplement, moi, je pense qu'il faut aller dans des associations de consommateurs avec des experts du LinkedIn qui savent ce que c'est, attaquer la loi sur l'intrusion, attaquer la loi qui permet de mettre le LinkedIn sur l'intrusion dans la vie privée, et 2, sur les implications sur la santé. Et comment la loi peut être retoquée si, 1, on l'attaque au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il va se baser sur quoi? Sur ce que vous disiez tout à l'heure, la charte, le principe de précaution, et là, le LinkedIn est arrêté. Puisque vous savez pourquoi les députés, ça j'ai vu, pourquoi les députés ne l'ont jamais demandé, puisque 60 députés de l'opposition pouvaient attaquer la loi. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'à l'époque où la loi a été votée, celle qui permettait le LinkedIn, on ne connaissait pas les implications sur la santé du LinkedIn et sur la vie privée. Simplement, c'est pour ça que je dis tout ce qu'on leur aujourd'hui, c'est que du court terme. Et il faut aller vraiment en justice.
Et même, on a compris.
Ils vous écoutent parce que c'est politique, parce que tout simplement, il y a beaucoup de citoyens sur les parkings, c'était pareil, et ils sont passés.
J'ai quelque chose à vous répondre, vous permettez?
Absolument.
Et d'ailleurs, ça va être une invitation, du coup. Vous êtes juriste, donc je vous invite à venir avec nous le 5 avril pour justement porter ce discours, et on va voir comment il se comporte.
On va venir
tous ensemble.
Ah bah ouais.
Oui.
Allez-y.
Vous nous laissez vos coordonnées, il n'y a aucun souci, on reste en contact et on approfondit ce que vous venez de dire. Hein.
Non, mais il donne votre courage, le maire. On prend peut-être une ou deux dernières interventions dans la salle ou questions, et puis on laissera le mot de la fin à
ceux qui
ont déjà fait. Alors, si j'ai pas l'occasion de reprendre le micro, parce que vous partez tous en courant, donc n'oubliez pas d'amener votre chaise près de l'entrée. On s'occupera de la mettre sur les grilles en sortant.
Mais on a le temps, hein.
Venez marquer vos adresses. Oui. Il ne s'agit pas de le dire et pas de le faire. Hein.
Donc, c'est du court terme, ce qu'on fait aujourd'hui, oui, mais heureusement, on fait ce court terme pour que demain, le long terme se mette en place.
Oui, oui.
Deuxièmement, j'ai vu que, sauf erreur, M. Grisil et M. Schiavetti sont inscrits sur la liste sur laquelle nous sommes tous, anti-Linky. Et je me réjouis, voilà, mais en même temps, je crois savoir qu'ils ont voté une délibération dans laquelle ils ont laissé faire. Donc peut-être que ce serait bien qu'il y ait une petite clarté là-dessus.
Ah, il y a des élus dans la salle, en fait.
Et puis, troisièmement, est-ce qu'il existe, je crois qu'il en existe, des autocollants anti-Linky? De quelle façon peut-on se les procurer, s'il vous plaît?
Oui, mais oui, il n'y a que qui font ces autocollants.
Oui, à propos de notre collègue juriste, je vois qu'il est occupé, allez à la procédure. Il faut savoir que si on se plante, c'est une jurisprudence contre nous. Donc, aller à la procédure, il faut y aller à coup sûr, et aucun avocat ne dira qu'on est sûr de gagner. Et même les avocats disent qu'il vaut mieux une bonne négociation, une mauvaise négociation qu'un bon procès. Donc, avant d'aller à la procédure, soyons prudents. On peut aller à la procédure au tribunal administratif pour demander des comptes au maire, par exemple, pourquoi il n'a pas pondu un arrêté, et s'il pond un arrêté, pourquoi il le pond dans ce sens-là.
Mais méfions-nous des procédures dures devant un conseil constitutionnel, parce que là, si on perd, on perd beaucoup plus que le procès.
C'est pour ça qu'on travaille sur ce côté de la recherche des arguments imparables jusque dans la virgule et jusque dans le verbe.
Il y a toujours l'argument dont te sort de la jurisprudence que tu ne connais pas, qui a été publiée.
Enfin, il faut bien faire les choses.
Oui, mais bon.
Qui ont de la bouteille et de l'expérience pour être commencée. Je suis.
Le jeudi 5 avril, c'est à
quelle heure ? On a rendez-vous à 16h.
Faut donner le rendez-vous. Non, mais... donner le rendez-vous là pour tout le monde.
Est-ce qu'elle englobe
Alors, je crois qu'il y a Tarascon, la communauté de communes. Vous vous décalez un peu pour que je mette le texte. Hein.
D'accord.
Le monsieur qui vient de parler, qui vient d'évoquer monsieur Bélin, je m'appelle Michel Gaillard, je suis électro hypersensible depuis plus d'une dizaine d'années. Oui, ça existe, monsieur. Je n'ai pas compris vos réserves. Et monsieur Brice, je vois un monsieur, je connais un autre qui vient de Château-Renard. Je remercie beaucoup d'être présent avec madame Macmillan. Vous venez de parler de monsieur Brice, donc il y avait une réunion à l'école maternelle de Pagnotal, il était question d'une installation d'un pylône pour installer un énième pylône sur Pagnotal pour installer donc des antennes de téléphonie mobile. Il y avait une représentante, je crois que c'était ça devait être SFR, qui est présent, M. Poucas, maire adjoint de Pagnotal. M. Grige était présent, donc ça remonte à 5 ou 6 ans. Bien évidemment, la presse locale n'avait, pour ainsi dire, pas évoqué cette réunion, qui est pourtant toute son importance. Nous devions être une petite dizaine à tout casser. Moi, j'espérais que soit présente Mme Françoise Estelle, qui accompagne M. Poucas. Madame Poucas, Madame Françoise Estelle était ancienne représentante des Forêts des Bois sur le Pays-Bas, sur la région, donc elle est particulièrement concernée du fait de raisons familiales, elle était d'autant plus concernée des questions de déco-hypersensibilité qu'une personne de sa famille très proche était concernée. Monsieur Grige, toute son intervention a été de défendre les délégations des opérateurs de l'énergie. Alors, on a parlé d'Enedis, on pourrait parler de la SNCF aussi de la même façon, parce que Enedis sort effectivement avec l'installation de mouchards, donc on essaie de recueillir le maximum de données sur nous. Et quand vous prenez un train, pour Guillaume Pépis, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les voyageurs, ce n'est pas le service, ce n'est pas le service public, et vous savez bien à quoi je fais référence. Le combat remarquable aussi de Dave Gard de ce page sur le concept de notre train et les arrêts de train sont rares. Mais Guillaume Technique, qui est le président de la SNCF, qui est passé à travers tous les gouvernements possibles et imaginables, ce ne sont pas les fonctionnements des trains, ce n'est pas le service public qui l'intéresse. Ce sont justement également toutes les données qui peuvent être captées, que ce soit dans les banques, dans les gares, et pas autre chose. Que les trains circulent pas, ça intéresse assez peu. Que les gens circulent dans des gares avec leurs portables qui sont fonctionnels en permanence, oui, ça serait concerné beaucoup, parce que lui aussi est directement concerné en CDI pour recueillir toutes ces données.
Merci à tous pour votre présence ce soir. Restez connectés. On vous informera de la suite. En venant signer la feuille devant, n'hésitez pas à prendre connaissance des publications de pièces et main-d'œuvre. Il y a autre chose que le LinkedIn, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres sujets très intéressants.
C'est pas des signatures, ça ?
Non, c'est le. Oops.
Voilà.
J'ai pas mis mon nom parce que il est dans le
bon. Attendons, on a tous aimé là.